Il est tout à fait 18h sur France Culture. C'est donc l'heure du journal.
Tout à fait.
Tout à fait, Aurélie Kiffer.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron dit vouloir lutter contre le séparatisme islamiste, mais aussi contre les discriminations. Rosalie Lafarge suit le président en déplacement à Mulhouse. L'ENA va être remplacée par une école d'administration publique et un plan de diversification des recrutements va être mis en place. L'actuel directeur de l'ENA réagit dans ce journal. Une décision inattendue en Turquie, le mécène Osman Kavala, accusé d'avoir tenté de renverser le gouvernement, a été acquitté, tout comme d'autres figures des manifestations anti-gouvernementales de 2013. Et puis après les critiques de salariés d'Amazon sur la politique environnementale du groupe, Jeff Bezos crée un fonds pour la Terre et le dote de 10 milliards de dollars. Isabelle Raymond nous en dira plus. L'islam politique n'a pas sa place en France pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État doit annoncer d'un instant à l'autre de premières mesures contre ce qu'il appelle désormais le séparatisme islamiste. Dès son arrivée à Bourzwiller, quartier sensible de Mulhouse, il a tenu à affirmer que cette lutte n'était pas dirigée contre les musulmans, mais il a justement été interpellé à ce sujet par de jeunes habitants. Le reportage de Rosalie Lafarge.
Le président a pris son temps plus d'une heure de bain de foule dans ce quartier dit de reconquête républicaine.
Bonjour.
Elle va bien.
Vous êtes plus pour de vrai qu'on a la télé.
Un quartier sensible de Mulhouse choisi par Emmanuel Macron pour affirmer sa volonté de lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste.
Moi je dis juste, je trouve pas ça normal que dans les autres pays comme l'Angleterre ou la Suède, ils sont beaucoup moins stigmatisés au niveau de la religion que par rapport à ici, monsieur.
D'abord, il y a des problèmes dans tous les pays aujourd'hui. Parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y a des difficultés dans nos démocraties, des difficultés économiques, parce que l'islam traverse une crise, ce qui est vrai, avec une radicalisation de certains et des mouvements très durs qui veulent aller vers l'islam politique. Et moi, je dis juste, chez nous, l'islam politique, pas de place.
Dans un échange assez calme, ces jeunes reprochent tout de même rapidement au président de stigmatiser les musulmans.
Il ne faut juste pas généraliser, monsieur.
Pas d'islam politique. Mais
pas d'islam politique.
Ils abusent trop sur le fait
toutes
que...
les Français.
Ouais,
tous
l'islam
les
ci, l'islam ça. Mais à chaque fois, un nouveau débat sur l'islam.
Non, mais il faut que tout le monde partage le même discours sur l'islam.
Tous les jours, on entend un nouveau truc.
Il faut que tout le monde ait le même discours.
C'est pas le burkini, c'est le truc. C'est des débats qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des problèmes plus importants en France.
Le chef de l'État se défend de toute stigmatisation. Il rappelle qu'il est là pour faire, pas simplement pour dire. Même message relayé auprès des forces de l'ordre avec lesquelles il a déjeuné, auprès des associations sociales, culturelles et sportives qu'il a ensuite rencontrées cet après-midi. Première étape d'une séquence qui se poursuit ce soir avec les premières annonces du président, qui continuera la semaine prochaine lors d'un deuxième déplacement consacré de nouveau à la lutte contre le séparatisme islamiste et qui devrait nous emmener au-delà des élections municipales de la mi-mars.
Rosalie Lafarge à Mulhouse pour France Culture. Les députés se lancent dans l'examen des premiers amendements de la réforme des retraites, mais il y avait d'abord en début d'après-midi la séance des questions au gouvernement, une nouvelle occasion pour l'opposition de souligner la démission précipitée de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui a remplacé au pied levé Benjamin Griveaux dans la course à l'hôtel de ville. Le député Les Républicains du Val-de-Marne, Michel Herbillon, a interpellé le Premier ministre à ce sujet. On écoute un extrait de cet échange entre Michel Herbillon et Édouard Philippe.
Cette candidature improvisée, imposée par le président de la République, en dit long sur le sens des priorités et des responsabilités du gouvernement. Comment peut-on abandonner son poste alors que l'hôpital public connaît une crise sans précédent, alors que la grève des hospitaliers dure depuis plus d'un an? Comment peut-on abandonner son poste en pleine crise du coronavirus? Enfin, comment la ministre chargée de la réforme des retraites peut-elle déserter au moment même où le débat s'ouvre dans l'hémicycle? Monsieur le Premier ministre, comment le serviteur de l'État que vous êtes peut-il choisir de faire passer les intérêts de son parti avant ceux du pays?
Monsieur le député Herbillon, merci de cette question qui me permet publiquement de dire que Agnès Buzyn était une remarquable ministre des Solidarités et de la Santé et qu'elle sera une exceptionnelle maire de Paris. Ne vous mettez pas dans cet état-là, monsieur Jacob. Et si Agnès Buzyn était là, elle vous dirait que c'est très mauvais pour la santé. Allons, ne jouons pas les vierges effarouchées, n'ayons pas les pudeurs de gazelle parfois évoquées sur certains bancs.
Édouard Philippe à l'Assemblée cet après-midi. Benjamin Griveaux a cédé sa place à Agnès Buzyn après la diffusion de vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Et cet après-midi, la compagne de l'artiste russe Piotr Pavlansky, qui a diffusé ces images, a été mise en examen. Alexandra de Tadeo a été placée sous contrôle judiciaire. Florence Turme.
Oui, effectivement, le juge d'instruction a prononcé sa mise en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel, un délit passible de 2 ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. C'est elle qui aurait été destinataire, il y a 2 ans, des vidéos intimes qui ont poussé Benjamin Griveaux à renoncer à briguer la mairie de Paris. Elle a donc conservé les images mais conteste leur diffusion revendiquée par son compagnon Piotr Pavlansky, avec qui elle a désormais interdiction d'entrer en contact dans le cadre de son contrôle judiciaire. Piotr Pavlansky devrait à son tour être mis en examen pour cette affaire, mais pour lui, la comparution devant le juge d'instruction se double d'un autre dossier, moins retentissant sur le plan médiatique et politique, mais aux conséquences plus lourdes judiciairement. Il s'agit d'une rixe survenue le soir du réveillon du 31 décembre dans un appartement parisien. L'artiste russe est soupçonné d'avoir porté des coups de couteau à 2 invités. Le parquet a demandé son placement en détention provisoire. Pour l'heure, Piotr Pavlansky est toujours devant le magistrat instructeur.
Florence Turme. L'ENA va disparaître. L'école nationale d'administration sera remplacée par une nouvelle grande école qui pourrait s'appeler l'école d'administration publique. Le rapport Thiriez sur la réforme de la haute fonction publique a été remis ce matin au chef du gouvernement. Et parmi les 42 propositions, certaines sont d'ores et déjà retenues, comme un plan de diversification sociale et géographique des recrutements ou encore la fin de la titularisation automatique dans les grands corps, ce qui reviendrait à supprimer le classement de sortie de l'ENA. Anne-Laure Jumet a recueilli la réaction de Patrick Gérard, actuel directeur de l'ENA.
C'est un sujet, le nom qui est un sujet important. Les Français ne le savent peut-être pas beaucoup à l'intérieur du pays, parce que souvent l'ENA est accusée de tous les maux. Mais à l'extérieur, l'ENA est une école qui est admirée dans le monde. On a plus de 3000 élèves de l'ENA qui ont des responsabilités importantes, sont des ambassadeurs étrangers, sont des directeurs dans leur ministère, et ils admirent beaucoup notre école. Donc il faut faire attention à ce que, au niveau international, cette marque ne disparaisse pas. Donc il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Sur l'affaire du classement de sortie, vous savez qu'il y a beaucoup d'opinions. Le classement de sortie, c'est pas un système excellent. Simplement, c'est un système qui se base sur le mérite et qui garantit toute contestation, toute cooptation. Les élèves choisissent l'administration dans laquelle ils vont et ce n'est pas comme ça se faisait avant 1945, les corps ou les ministères qui choisissent qui ils veulent. Souvent en fonction, comme ça se faisait autrefois, d'amitié personnelle ou de connaissances familiales. Le classement, c'est pas génial, mais ça garantit l'impartialité.
Vous dites, on fait déjà des coopérations avec les autres hauts fonctionnaires, mais là, on parle de tronc commun qui rassemble tous les futurs hauts fonctionnaires, y compris des magistrats. C'est quand même un changement assez notable, non ?
Oui, mais vous savez que si on fait quelques semaines par an des formations communes où les uns et les autres qui auront à travailler pour le pays dans les années qui suivent apprennent à se connaître un peu et à voir un peu leurs méthodes les uns les autres, je suis pas sûr que si ça se fait sur plusieurs semaines, c'est quelque chose de dramatique. Il y a à faire attention à ce que on fasse pas d'usine à gaz, que le système qu'on propose de formation avec d'autres écoles, aussi bien les écoles administratives, judiciaires, que les écoles d'ingénieurs de l'État, qu'on mette en place des choses simples, qu'on évite des structures trop lourdes et qu'on fasse pas le contraire de ce qu'on ne voudrait pas enseigner.
Patrick Gérard, directeur de l'ENA. Nouvelle alerte sur les méfaits des pesticides. L'ONG Génération Future a analysé des relevés de qualité de l'air effectués entre 2002 et 2017 en France. Elle en présente les résultats. Conclusion, Adrien Toffolet, non seulement on mange et boit des pesticides, des analyses sur l'eau et sur les fruits et légumes l'avaient déjà montré, mais on respire aussi un cocktail d'herbicides, fongicides et autres insecticides.
Prenons pour exemple l'année 2017. Sur les 52 substances actives détectées, un peu plus de la moitié des résidus trouvés sont des perturbateurs endocriniens et un quart sont suspectés d'être ce qu'on appelle des CMR, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Et parfois même, les analyses ont révélé des substances inattendues, s'inquiète François Veyrette, le directeur de l'ONG.
Des très vieilles substances interdites parfois depuis la fin des années 90, comme le lindane, qui était utilisé en agriculture, et aussi dans les shampoings anti-poux, on traitait la tête de nos gamins avec ça. Ben, on le retrouve encore dans l'air parce que le fait de sa présence, hein, le produit est très persistant dans les terres, ben, va faire qu'à chaque labour, si la terre est sèche, c'est un peu remis en suspension et on en retrouve des traces dans l'air.
Par ailleurs, ce qu'il est important de noter, c'est qu'on a un bilan intéressant malgré son caractère incomplet. Car les associations agréées de surveillance de qualité de l'air qui ont effectué les relevés, d'une, n'ont pas toutes la même méthodologie de détection des molécules, de deux, ni même les moyens d'effectuer un travail exhaustif et régulier, car il s'agit de volontariat. De fait, il manque certaines régions, certaines molécules, pas de données, certaines années. Le bilan d'aujourd'hui est donc en deçà de la réalité. Mais il arrive tout de même à point nommé, il permet à l'ONG d'appuyer de demander un vrai suivi des pesticides dans l'air avec un bilan annuel. Et puis, il donne également des éléments solides aux ONG, dont Génération Future, qui vont déposer la semaine prochaine un recours devant le Conseil d'État pour demander l'annulation du décret du gouvernement publié en décembre dernier, décret qui fixe les distances minimales de sécurité entre zones pulvérisées et riverains.
Là, on peut montrer que les produits qui sont dans l'atmosphère, en dehors des considérations de quantité, de concentration, sont des produits préoccupants et que les riverains ne sont pas exposés à des molécules inertes. 3 mètres et 5 mètres d'éloignement des champs, ce n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà, largement au-delà. Et puis, commencer par un truc très simple, c'est une obligation de prévenir pour les agriculteurs, les riverains, avec un petit SMS pour leurs voisins, qui vont traiter dans les heures ou le lendemain.
Pour ce recours, l'ONG promet de nouveaux arguments, des preuves scientifiques, ce qui leur donnera peut-être plus de chances de succès que l'association des maires anti-pesticides. Vendredi dernier, le Conseil d'État avait rejeté leur recours en urgence, demandant l'annulation de ce même décret.
Adrien Toffolet. Il va puiser 10 milliards de dollars dans sa fortune personnelle pour lutter contre le changement climatique. Jeff Bezos, le patron d'Amazon, annonce la création d'un fonds pour la Terre, alors même que le géant du commerce en ligne est un gros producteur de gaz à effet de serre, Isabelle Raymond.
Le changement climatique est la plus importante menace de notre planète, écrit Jeff Bezos, qui annonce dans la foulée la création d'un fonds à hauteur de 10 milliards de dollars, de l'argent qui viendra alimenter aussi bien les grandes entreprises que les petites, les organisations non gouvernementales que les étatiques, les individus comme la recherche scientifique. Le créateur d'Amazon n'est pas le premier philanthrope environnemental. Avant lui, d'autres milliardaires américains ont tracé la voie, à commencer par le fondateur de Microsoft, Bill Gates, ou encore Michael Bloomberg, ancien maire de New York, aujourd'hui candidat à la primaire démocrate. Il y a moins d'un mois, déjà, Jeff Bezos annonçait l'achat de 100 000 véhicules électriques pour la livraison de colis aux États-Unis et surtout fixait un objectif de neutralité carbone pour Amazon d'ici 2040. Une gageure quand on sait que le champion du commerce en ligne livre quelque 10 milliards de colis chaque année, avec ce que ça implique de CO2 entre le transport de marchandises et les données informatiques, jusqu'aux salariés d'Amazon s'en émeuvent. Il y a moins d'un mois, ils étaient plusieurs centaines à manifester devant le siège de l'entreprise à Seattle.
Isabelle Raymond. Le géant bancaire HSBC se réorganise après avoir essuyé une chute de 53% de son bénéfice net l'an dernier. Il annonce la suppression de 35 000 emplois en 3 ans et une réduction de ses activités aux États-Unis et en Europe. Cette annonce suit de peu celle du groupe italien UniCredit. Les grands groupes bancaires de la planète sont confrontés à de multiples défis et devraient supprimer des dizaines de milliers de postes ces prochaines années. Écoutez l'analyse de l'économiste Jezabel Coupé-Souberan, professeure à la Sorbonne.
Il y a toute une constellation, en fait, de nouveaux acteurs financiers à même de proposer des services de paiement, des services de financement, des services parfois aussi de gestion de patrimoine à des coûts bien inférieurs à ceux proposés par les banques, mais offrant en fait un service beaucoup plus spécifique, alors que les grands groupes bancaires européens se sont plutôt orientés vers du multiservice et sont devenus de véritables supermarchés de la finance. Donc certes, le contexte n'est pas des plus favorables pour ces grands groupes bancaires, mais je crois qu'on peut surtout s'interroger sur le changement qu'il y a eu dans leur modèle d'activité au cours des dernières décennies. Finalement, ces grands groupes se sont un peu éloignés de ce qu'on considère être la raison d'être des banques. Une banque, à quoi ça sert normalement? Ça sert au financement de l'économie, ça sert à financer des entreprises notamment qui ont peu d'alternatives de financement comme des petites et moyennes entreprises. Ça, ce n'est plus du tout le cœur d'activité de ces banques parce que ces grands groupes bancaires se sont largement déployés sur les marchés de capitaux, ont développé des activités dites de banques d'investissement, rendant d'ailleurs leurs résultats un peu plus volatiles, mais surtout quand même leur permettant de grossir énormément. En grossissant autant, eh bien, ces grands groupes bancaires sont devenus des groupes un peu rentiers. privés se sont plus tellement préoccupés de la satisfaction de leur clientèle et ont raté aussi peut-être le train technologique. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, ils commencent à en faire les frais. Tout cela a quand même trait à des facteurs beaucoup plus profonds liés à de mauvaises orientations stratégiques de ces groupes bancaires.
Jézabel Coupé-Soubéran, jointe par Annabelle Grelier. L'Union européenne réactualise sa liste des paradis fiscaux. Le Panama, les Seychelles, Palau et les îles Caïmans sont désormais intégrés à cette liste. Les îles Caïmans, territoire britannique d'outre-mer, c'est le premier territoire d'un État membre ou ex-État membre à figurer sur la liste élaborée par l'Union européenne. On assiste à un regain de tension en Ukraine. Des combats d'une intensité inédite ont éclaté ce matin dans la région du Donbass. Les forces séparatistes soutenues par la Russie ont lancé une attaque surprise sur la petite ville de Zolotye. Les combats ont duré plusieurs heures et la région n'avait pas connu de tels affrontements depuis plusieurs années. Stéphane Siohan.
Il était 5h du matin lorsque les habitants de Zolotye, une petite ville minière sur le front, ont été brusquement secoués par des explosions d'une violence inédite depuis au moins 3 ans. Les forces séparatistes soutenues par la Russie ont attaqué les positions ukrainiennes au canon de 120 et de 150 mm. Mais surtout pour la première fois depuis très longtemps, des groupes de fantassins pro-russes ont tenté de franchir le front, déclenchant un barrage d'artillerie ukrainien. La bataille a duré 5 heures et il y a des pertes dans les deux camps. Selon un bilan encore provisoire, un soldat ukrainien aurait été tué et 4 ont été blessés, alors que les pro-russes pourraient avoir repris des positions stratégiques aux forces armées ukrainiennes. Ce brusque regain de tension interroge, alors que depuis plusieurs mois, Moscou et Kiev avaient recommencé à se parler. Zolotye était un des 3 secteurs du front où les belligérants avaient désengagé leurs forces en novembre dernier, un geste qui avait ouvert la voie à une première rencontre à Paris entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ces derniers mois, le jeune président ukrainien a pris de véritables risques politiques pour mettre fin à une guerre qui a tué plus de 14 000 personnes. Aujourd'hui, il a dénoncé une provocation, selon lui destinée, je cite, « à ruiner le processus de paix ».
Stéphane Siohan, notre correspondant à Kiev. La justice turque a acquitté l'homme d'affaires Osman Kavala. Il était enfermé depuis plus de 2 ans après avoir soutenu le mouvement protestataire du parc Gezi à Istanbul en 2013. C'est un verdict inattendu. Les explications de Cerise Sudri-Ledu à Istanbul.
Des grands sourires, des signes de la victoire et même des larmes de soulagement. À la sortie de l'immense salle d'audience installée dans la prison de Silivri, dans la banlieue d'Istanbul, la surprise se mélange à la joie chez les dizaines de supporters ayant fait le déplacement. Il faut dire que cela fait presque 1 an qu'ils enchaînent les audiences, toutes plus surréalistes les unes que les autres. Les mises en cause, au nombre de 16, étaient accusées d'avoir tenté de renverser le gouvernement turc en aidant ou en finançant les manifestations de Gezi qui ont ébranlé le pouvoir en 2013. Le principal accusé, le mécène Osman Kavala, était en prison depuis plus de 2 ans. Le procès était à part tant Recep Tayyip Erdogan, qui était premier ministre à l'époque, a fait de la procédure une affaire personnelle. Les avocats des différents prévenus n'ont cessé de dénoncer des preuves inexistantes dans le dossier ou des témoins inconséquents lors des 7 procès qui se sont tenus. La Cour européenne des droits de l'homme avait aussi réclamé la libération immédiate d'Osman Kavala, estimant que sa détention était motivée par des considérations politiques. Alors ce mardi, les soutiens des accusés ont laissé éclater leur joie. Mudjela Yapadze, pour qui le procureur avait requis de la prison à vie, s'est écrié « Gezi ne peut pas être pollué ».
2019, année de défis envers les autorités, marquée par la répression brutale d'une nouvelle vague de soulèvements massifs. Voilà résumé en une phrase le rapport annuel d'Amnesty International sur la situation des droits humains dans 19 pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. 10 ans après les printemps arabes, l'ONG estime que la vague de protestations qui a touché l'Algérie, l'Irak, l'Iran et le Liban l'an dernier témoigne d'une foi renouvelée dans le pouvoir des citoyens et des citoyennes. Mais elle dénonce la réaction des autorités qui ont chercher à museler les critiques et les revendications. Vous avez assisté à la présentation de ce rapport d'Amnesty à Beyrouth, Aurélien Colli.
Défiance et répression, 2 mots qui résument l'année 2019 selon Amnesty International. Défiance d'abord des peuples qui se sont soulevés au Soudan, en Algérie, en Irak, en Iran ou au Liban. Répression ensuite des pouvoirs en place, dans le sang en Irak et en Iran, à coups d'arrestations en Égypte ou en Arabie Saoudite, ou encore par l'intimidation, par exemple en Algérie ou aux Émirats. Les gens connaissent cette brutalité et malgré ça ils continuent de se battre, souligne Eba Morayev, responsable d'Amnesty International, Moyen-Orient, malgré aussi une cyber-répression qui s'est accentuée en 2019, de la censure de sites internet aux coupures du réseau, en passant par la traque en ligne des opposants. Des journalistes, des activistes, des critiques, mais aussi de simples citoyens sont arrêtés, poursuivis, intimidés pour un tweet ou un message posté, déplore encore Eba Moraïev. Cela montre la fragilité de ces régimes, mais tuer les messagers ne fera pas disparaître les revendications politiques, économiques et sociales, conclut la responsable d'Amnesty International.
Aurélien Colli, Ashraf Rani est officiellement réélu à la tête de l'Afghanistan. Selon les résultats définitifs de l'élection présidentielle, il a obtenu 50,6% des votes. Mais son principal adversaire, le chef de l'exécutif, Abdullah Abdullah, crédité de 30,5% des votes, conteste ce résultat et il annonce un gouvernement parallèle. Demain mercredi, le ciel restera assez gris et parfois pluvieux au nord de la Seine. Temps plus agréable sur le quart sud-ouest avec de belles éclaircies l'après-midi. Grand soleil sur les régions méditerranéennes. Les températures matinales varieront entre 0 et 11 degrés. Les maximales atteindront 7 à 13 sur la moitié nord et Rhône-Alpes. 10 à 15 sur le sud-ouest, 15 à 18 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.